Sylvie Berruet.
Oui, c'est bien moi. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Il est 21h30 ici à Paris et 19h30 en temps universel. Le géant français de l'uranium, Orano, dénonce le projet de nationalisation par le Niger de sa filiale Somaïr et parle d'une spoliation des actifs miniers et d'une violation des accords avec Niamey. Dans l'actualité encore, ces divergences en République démocratique du Congo avant la signature de l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa prévu la semaine prochaine à Washington. L'opposition congolaise critique l'accord préliminaire. Au Rwanda, la principale opposante à Paul Kagame a été arrêtée hier. Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État en 2021. Et puis à Madagascar, une fête spirituelle et riche en émotions. Elle s'est tenue vendredi. L'ethnie Sakalav du Ménabé, implantée sur la côte ouest de Madagascar, a sacré son nouveau roi. Au Niger, le divorce consommé entre les autorités et la société française Orano. Le gouvernement nigérien a annoncé la nationalisation de la société des mines de l'Aïr, la Somaïr, qui a démarré l'exploitation de l'uranium il y a plus de 50 ans. Cette société, détenue à 63,40% par Orano, fait l'objet d'un contentieux important depuis bientôt 2 ans. Il est présent dans le nord du Niger depuis 71, ce groupe, et dénonce ce soir une étape supplémentaire dans la volonté des autorités nigériennes de l'évincer. Lisa Fabian.
Dans son communiqué, Orano dit s'élever contre la politique de spoliation des actifs miniers, je cite, en violation des accords liant le groupe et l'État du Niger. L'entreprise française indique qu'elle entend réclamer la compensation de l'ensemble de son préjudice et faire valoir ses droits sur le stock correspondant aux productions de la Somaïr à date. Plus de 1300 tonnes d'uranium sont toujours conservées au Niger, un stock estimé à 250 millions d'euros par Orano. De son côté, Niamey reproche à Orano de ne pas avoir respecté la règle de partage prévue dans l'entente et d'avoir exporté plus que sa part. Autre point de désaccord, l'arrêt des travaux d'exploitation depuis juillet 2023, le rapatriement de ressortissants français sans préavis ou encore la déconnexion du système informatique de la Somaïr du réseau global du groupe. Orano précise se réserver le droit d'initier toute action complémentaire nécessaire, notamment pénale, y compris contre des tiers en cas de préemption de la matière.
Des divergences en République démocratique du Congo avant la signature d'un accord de paix entre Kigali et Kinshasa. Cela est prévu la semaine prochaine aux États-Unis à Washington. Signature attendue le 27 juin avant une possible rencontre au sommet en juillet en présence de Donald Trump et peut-être d'autres chefs d'État africains. Mais du côté de l'opposition congolaise, les avis sont partagés à Kinshasa. Pauline Azidi.
Le premier à avoir réagi, c'est le docteur Denis Mukwege. Dans un long communiqué, il dénonce le caractère opaque et non inclusif de cet accord en négociation qui reviendrait à accorder une prime à l'agression, à légitimer le pillage et à contraindre la victime à aliéner son patrimoine national en sacrifiant la justice en vue de garantir une paix précaire et fragile, écrit Denis Mukwege. Opacité dénoncée aussi par le camp de l'ancien président Joseph Kabila qui estime que si un accord venait à être signé avant toute application, il faudra passer par un dialogue national. On ne peut contester aucune initiative qui tend vers l'intégrité du territoire, la souveraineté et la protection de la population, mais on devra en discuter, explique en effet le porte-parole du PPRD Ferdinand Kambéré. Du côté de Martin Fayoulou, qui a opéré ces dernières semaines un rapprochement avec le chef de l'État, on met en avant des points positifs comme l'obligation faite au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais, mais Prasse Pengue, porte-parole de la Mouka, de s'inquiéter aussi du fait que la RDC, je cite, n'apparaisse que comme un grand gisement. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et dans le pays voisin, au Rwanda, la principale opposante à Paul Kagame a été arrêtée hier. Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État ouverte en 2021. Ce qu'elle a nié en bloc, c'était lors de sa comparution hier devant la Haute Cour. Paul Langerie.
Selon un communiqué du bureau d'enquête du Rwanda, Victoire Ingabire est poursuivie pour association de malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. Lorsque la nouvelle de l'arrestation lui est parvenue, l'opposant Bernard Taganda n'a pas tardé à se rendre au domicile de la prévenue pour constater les faits.
On a terminé la perquisition vers 21h30, 21h45. Donc 21h45, on l'a amené.
L'opposante de 56 ans est citée dans l'affaire Sylvain Sibomana, ancien secrétaire général du précédent parti de Victoire Ingabire. Avec 8 autres personnes arrêtées en 2021, il est accusé d'avoir organisé des réunions. Leur objectif présumé, le renversement du pouvoir. Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans l'organisation de ces réunions avec ses sympathisants, ce qu'elle nie en bloc. Un cirque motivé politiquement qui n'est pas le fruit du hasard, selon Yann Edwards, l'un de ses avocats internationaux.
Sa peine allait prendre fin en octobre de cette année. Elle a reçu une grâce présidentielle en 2018 et jusqu'à la fin de la peine de 15 ans, la possibilité existe toujours pour les autorités d'annuler la grâce présidentielle et la remettre en prison.
La prochaine audience de Victoire Ingabire a été fixée le 7 juillet prochain.
Une nouvelle attaque contre un village dans le sud du Tchad hier soir. Des hommes ont ciblé Oregomel, une localité située à quelques kilomètres de Mandakao. C'est là qu'une quarantaine de personnes ont été tuées au mois de mai suite à un conflit intercommunautaire. Il pourrait s'agir d'un acte de vengeance. Le bilan actuel est de 17 morts et de 17 blessés. Plusieurs représentants de l'État se sont rendus sur place ce matin. Des suspects auraient été arrêtés. La Centrafrique, nous parlions de la mise en œuvre de l'accord signé il y a 2 mois entre les autorités et les rebelles des 3R et de l'UPC, accord qui prévoit la réintégration des 2 grandes rébellions à Dominante Peul à l'accord de paix de 2019, dit accord de Khartoum. Des réunions ont eu lieu au niveau local entre chefs rebelles, autorités civiles et militaires centrafricains et les Russes de Wagner. Et justement, une des rencontres particulièrement symboliques a eu lieu dans le centre du pays, François Mazé.
Cette rencontre s'est déroulée à Maloum, à une cinquantaine de kilomètres de Bambari, dans la Waka. Des photos ont circulé, on y voit un des principaux chefs militaires de l'UPC, le général Amadou Bungous, et ses hommes, posés avec ceux de Wagner, menés par Dimitri Podolski. Dimitri Podolski est une personnalité centrale dans le dispositif russe en Centrafrique, car il a un rôle de conseiller à la sécurité à la présidence de la République, donc directement auprès du président Touadéra. Alors que des tractations ont lieu entre Moscou et Bangui pour faire évoluer le dispositif russe dans le pays, aller vers un remplacement de Wagner par Africa Corps. Cette rencontre montre l'implication directe de Wagner dans les tractations en cours avec les rebelles, rappelant que le groupe avait déjà joué un rôle clé lors de la conclusion de l'accord de Khartoum en 2019. Des réunions de ce type ont lieu ces dernières semaines dans plusieurs régions du pays. Elles ont pour but de s'assurer de cesser le feu au niveau local, de permettre la libre circulation des rebelles, dans l'attente de l'organisation de leur cantonnement et de leur désarmement qui n'ont pas encore commencé. Selon les autorités centrafricaines, l'UPC devrait disposer de 8 sites de regroupement et 6 autres pour les hommes des 3R.
Partons à Madagascar pour une fête spirituelle riche en émotions. Elle s'est tenue vendredi. L'ethnie Sakalave du Ménabé, implantée sur la côte ouest de la Grande Île, a sacré son nouveau roi. Le roi Réa Kamam, c'est son nom. Il a 61 ans, c'est l'arrière-petit-fils du roi Touer, chef du peuple Sakalave, décapité par l'armée coloniale française en 1897. Sarah Teto.
C'est par 2 coups de fusil que la cérémonie d'intronisation a démarré ce matin. 2 tirs pour avertir l'univers de l'arrivée d'un nouveau souverain. Très vite, les habitants des environs ont afflué aux côtés d'invités de marque, notables, princes et princesses d'autres ethnies, vers la rive du fleuve Tiribine, au son des chants et musiques sakalaves, pour assister au rite de l'onction des ancêtres. Georges Kamam, tout de rouge vêtu, s'est ensuite rendu au tombeau royal, raconte-t-il.
On est rentré dans ce temple, s'incliner devant les 11 reliques de nos aïeux, et on m'a mis face à un zébu. Et c'est là que une personne du collectif royal habilité à tenir un sabre a évoqué un par un mes aïeux défunts en tapant sur le zébu. Et c'est juste après ça que le peuple a crié « Nous avons un nouveau roi ».
Des cris, des larmes et surtout une joie intense et profonde, confie Bertrand Ranir, membre du collectif royal Sakala.
Le moment le plus marquant de cette journée, c'est quand nous avons hissé notre roi au rang d'Ampanit, celui qui tranche, quand nous l'avons aiguisé à la manière d'une lance pour le rendre fort et qu'il puisse transpercer l'univers.
La cérémonie s'est poursuivie jusqu'à la tombée de la nuit, au rythme des chants sacrés et des tambours, jusqu'à ce que les portes du tombeau soient refermées par les dadis, les intercesseurs des défunts souverains, comme pour marquer l'ouverture d'une nouvelle page. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et on salue nos auditeurs malgaches. Il est 21h40 ici à Paris. Bonne soirée à vous.